Salut à toutes et à tous, au sommaire de ce Rétrovision, nous aurons King's Quest 3, Human Sports Festival, Amazing, DuckTales, Stone Sling, Mystic Riders, et nous finirons avec un dossier sur le déco cassette. Bienvenue sur Rétrovision. Quest 3 a été initialement publié en 1986 et avait l'air de faire quelque chose d'un peu différent avec la populaire série. Non seulement a-t-il abandonné la poursuite de l'histoire du roi Graham en tant que dirigeant de Daventry, mais en plus il a exploré un éventail de mécanismes de jeux expérimentaux qui ont été avant-gardistes à cette époque. Après nous avoir gratifié de deux excellents remakes, le studio AGD Interactive nous remet ça pour notre plus grand bonheur avec un troisième volet rebaptisé Redux.
Gwydion. What are you doing, boy?
L'histoire commence avec le jeune Gwydion, qui joue le rôle de la boliche de service en effectuant sans relâche les travaux pour son maître Manana.
I was just looking. How dare you take leave of your duties? Resume your chores immediately.
Yes, Manana. Master.
Gwydion est un esclave orphelin qui sait très peu de choses sur le monde autour de lui et aussi sur son passé. Il va donc devoir trouver un moyen de s'échapper de cette prison et aspirer à un avenir plus clément. Pour ce faire, Gwydion va devoir s'armer de patience, de ruses et de mauvais coups sans que le vilain sorcier s'en aperçoive.
I have decided to take a journey.
Dès que Mananan l'informe de son départ, plus ou moins long en fonction du voyage, il lui sera permis d'agir à sa guise et d'explorer tous les recoins de la maison ainsi que l'extérieur. Mais en même temps, il faudra aussi effectuer la tâche ménagère qu'il vous aura demandée. Comme dans l'original, une minuterie en haut de l'écran indique le nombre de minutes écoulées avant son retour. Mais il offre maintenant de l'aide supplémentaire au niveau de l'affichage. En effet, celui-ci va s'afficher en vert lorsque le sorcier est loin. Il va virer au jaune quand il est presque prêt à revenir et finalement en rouge pour vous aviser que notre héros devra être au garde à vous.
You see an evil sneer come across the wizard's face. I am hungry. Prepare me a meal at once.
Do nothing.
Dès que Gwydion aura anéanti Mananan, la suite de l'aventure le conduira à un certain nombre de créatures mythiques potentiellement mortelles, comme des araignées géantes, Médusa, l'abominable homme des neiges et même une hydre géante. Cependant, vous aurez également besoin de dialoguer avec les humains qui sont désireux de se tenir dans le chemin de sa liberté. Heureusement, il y a aussi quelques créatures amicales, comme la famille Ours, directement inspirée du conte Boucle d'Or. Une partie de ce voyage comprend également la découverte de votre véritable identité, cachée depuis votre enfance par Manana. Techniquement, ce remake nous offre tout ce que l'on a besoin pour une expérience de jeu agréable, confortable et sans prise de tête. Une interface simple et précise, incluant les principales fonctions telles que marcher, regarder, interagir, utiliser et parler, de très beaux graphismes dans la lignée des épisodes 5 et 6, avec des environnements variés et un univers féerique de toute beauté. Il comprend aussi des doublages anglophones très convaincants et un scénario étendu, voire même amélioré avec une magnifique bande-son.
Greatest among us, the orbs were lost.
How might I do this?
En plus, tout ceci est téléchargeable gratuitement sur le site d'AGD Interactive et ce serait vraiment un crime de s'en priver.
Perhaps this will help to inspire you.
This is it! Dawn, it's time to go. The journey's long, my pace won't slow. I'll prove that I...
Yeah. Nous voici dans une nouvelle année. Et après cette orgie de repas copieux, vient la classique résolution du nouvel an, perdre du poids. Pour cela, il n'y a pas 36 solutions. Il faut manger des choses saines, en quantité raisonnable et surtout, faire du sport. Et comme tous les goûts sont dans la nature, les gars de chez Human ne vous proposent pas un ni deux, mais trois jeux de sport sur une seule galette avec la compilation Human Sports Festival. Si vous êtes amateur de sport individuel, il y a du tennis. Si vous êtes plutôt sport collectif, il y a du football. Ou si vous préférez le sport classe et distingué, il y a du golf. Commençons donc par le tennis. Final Match Tennis est une véritable référence de ce sport sur PC Engine. Celui-ci a d'ailleurs déjà été chroniqué dans le Provision. Cette version est légèrement différente, car comme stipulé sur l'écran titre, celle-ci met à l'honneur la jante féminine. C'est d'ailleurs la seule différence avec le jeu original. Qualité graphique identique, musique et bruitage similaires, on regrette que les programmeurs n'aient pas profité de l'occasion pour améliorer leur soft. Pire, le jeu régresse sur un point, le mode Training. Disponible dès l'écran titre dans la version d'origine, n'est ici présent que via un code ne fonctionnant qu'avec le multitap. Tout cela n'enlève rien aux qualités intrinsèques du titre qui se veut toujours aussi fun à jouer seul ou à quatre. Avec une jouabilité simple et précise qu'on ne retrouvera qu'avec la série des Virtua Tennis. Formation Soccer Human Cup 92, tout comme Final Match Tennis, est un titre bien connu des possesseurs de PC Engine. Il s'agit d'ailleurs d'une simple mise à jour du jeu sorti 2 ans plus tôt et également chroniqué dans Retrovision. Là aussi, pas de grosse révolution par rapport à l'opus précédent, le jeu est techniquement identique, seule la liste des équipes a été modifiée. Il faut bien reconnaître que le jeu commence sérieusement à accuser son âge, avec ses graphismes un peu simplets et sa maniabilité assez poussive. Le point le plus rageant étant sans contestation cette latence de la console à nous donner le contrôle du joueur le plus proche du ballon, nous faisant rater ainsi des belles opportunités de marquer des buts ou de défendre notre camp. Bref, si Formation Soccer reste un classique, ce n'est pas franchement le titre vers lequel on se tournera pour la pratique vidéoludique de ce sport. Fine Shot Golf est probablement le titre le plus intéressant de cette compilation, car il s'agit là d'un jeu développé spécifiquement pour cette dernière. Dans ce soft, vous pourrez arpenter les 18 parcours d'un seul terrain de golf, mais les possibilités restent multiples. Vous entraîner sur un parcours en particulier, faire les 18 trous en joueur libre ou en compétition, défier un adversaire, voire même participer à un championnat où vous affronterez plusieurs adversaires à la suite. Une fois la sélection de votre club faite, vous voici sur le parcours. La vue du terrain se fait en hauteur, ce qui n'est pas ce qu'il y a de plus esthétique graphiquement parlant, mais permet une vue globale et claire du parcours. Les réglages de tir ne manquent pas, choix du club, direction de tir, position des pieds pour donner de l'effet à la balle et puissance de tir. Le moment de la frappe est un instant crucial. Car comme tout jeu de golf qui se respecte, vous devrez appuyer sur le bouton de la manette au moment précis où le curseur sera dans la zone d'impact de la balle. Plus vous serez loin de cette zone, et plus la balle dévira de la trajectoire souhaitée, compliquant grandement les coups qui suivront en fonction de l'endroit où atterrira la balle. Les divers bunkers, plans d'eau et nombreux arbres placés un peu partout ne manqueront pas de vous pourrir la vie. Avec sa réalisation simple mais agréable et ses musiques au format CD, Fine Shot Golf n'est certes pas le meilleur jeu de golf disponible, mais reste toutefois un titre extrêmement agréable à arpenter. Amazing fait partie de ces très nombreux jeux au gameplay simple et qui pullulaient au début des années 80. Dans ce titre, vous devez diriger une souris dans un labyrinthe à la recherche soit de la sortie, soit de morceaux de fromage, tout en étant traqué par un ou plusieurs chats. Le point qui surprend dans ce jeu est sa grande liberté de configuration. Quasiment tous les éléments sont paramétrables. Nombre de joueurs, complexité du labyrinthe et visibilité des murs, type d'obstacle, nombre de chats, leur intelligence et la possibilité qu'ils puissent se téléporter et à quelle fréquence, etc. Si on ajoute le fait que les labyrinthes sont générés aléatoirement, vous comprendrez que vous ne ferez jamais deux parties identiques. Si vous êtes du genre à aimer les défis, je ne saurais que trop vous conseiller de tester une partie en mode recherche de fromage, dans un labyrinthe complexe, aux murs invisibles, avec deux chats intelligents et rapides à vos trousses. Sachant que les chats masqueront les chemins que vous aurez découverts, vous n'aurez pas fini de tourner en rond. Amazing est donc un titre très amusant malgré sa relative simplicité et qui s'avère très accrocheur, même de nos jours. Ah, foie de canard, ça va chauffer. Nous voici sur Game Boy en 1990 avec ce magnifique, que dis-je, ce grandiose jeu de plateforme de Capcom. Et non, ce n'est pas Megaman, mais DuckTales, la bande à Picsou dans la langue de Molière si vous préférez. Voilà un jeu qui a marqué pas mal de joueurs des années 90 et qui ont eu une petite Game Boy. Ce soft vous propose de vous mettre dans la peau de Picsou qui va voyager à travers le monde pour récupérer 5 magnifiques trésors et quelques-uns un peu plus banals au passage. Picsou va devoir traverser la jungle amazonienne, gravir l'Himalaya, claquer du bec d'effroi en Transylvanie et enfin voyager sur la Lune. Remarquez, quand on est milliardaire, on peut vraiment tout faire. Sachez tout de même que dans certains niveaux, il faudra revenir dans un autre pour récupérer des clés ou tout autre objet indispensable à la progression. Bref, cela fait déjà un bon bout de chemin à faire avec l'oncle Picsou. Il rencontrera dans son aventure tout un tas de monstres et de boss moyennement coriaces, car le jeu a une vocation plus enfantine que ses habituels Megaman qui sont, il faut l'avouer, assez retors. Mais pas de panique, car Picsou peut se servir de sa canne comme pogo stick pour sauter sur ses ennemis et détruire des blocs, ou même lancer des pierres et des blocs à certains passages. On se demanderait presque si sa canne est bel et bien en bois. Les graphismes sont particulièrement soignés et on ne peut que regretter quelques ralentissements à certains moments du jeu, mais ils sont vraiment très très rares. Le reste du temps, le jeu est fluide, sans accrocs, et Picsou répond au doigt et à l'œil. Les musiques collent parfaitement à l'action et les bruitages, sans être extraordinaires, rendent assez bien dans l'ensemble. Nous sommes devant un jeu vraiment sympa, avec une ambiance très 90 qui ne s'est pas altérée avec le temps. Ce jeu est toujours aussi agréable à jouer 14 ans plus tard, un des meilleurs jeux de plateforme de la petite Game Boy. Un hit signé Capcom au firmament de sa gloire, qui, même s'il a pris quelques rides, vous scotchera toujours autant. Une valeur sûre. Que diriez-vous d'un voyage dans le temps, pour remonter à l'époque des châteaux et des royaumes toujours en train de guerroyer? Voilà ce que nous propose ce petit soft sur Videopack Plus. Alors pourquoi Plus? Car il existe une version Videopack normale qui est légèrement moins puissante et qui a aussi pour sa part les mêmes softs. Enfin bref, contentons-nous de notre petite histoire. Ce petit jeu sans prétention est très sympa. Le but est super simple, détruire le château de votre ennemi avant que celui-ci ne mette en poussière le vôtre. Et pour ce faire, vous vous servirez de catapultes et de grosses pierres. Non, ne rigolez pas, ce fut le high-tech de l'armement à l'époque médiévale. Le maniement du jeu est un peu plus simple, pressez la flèche de droite pour concentrer la force du tir. Et voilà à quoi se résume le contrôle du jeu. Mais l'intérêt est surtout de bien contrôler la force de son tir pour ne pas toucher sa propre muraille, ou de jeter un rocher dans l'eau, ce qui vous coûtera une vie d'ailleurs.
Les graphismes sont pas mal comparés à la version vidéo normale, où l'on peut dorénavant voir les châteaux et autres paysages qui n'étaient bien sûr pas présents dans la version vidéopack. Les bruitages quant à eux n'ont rien d'extraordinaire et sont dans la lignée de ce que l'on avait à l'époque. Et comme vous avez pu le remarquer, il est dépourvu de musique. Et oui, à l'époque, rares sont les jeux qui avaient une musique tout au long de la partie. En définitive, Stone Sling est assez sympa, mais il est exclusivement jouable à deux, ce qui est donc plus un jeu de réflexe qu'autre chose. Ce soft a fait passer de bons moments à son époque, et il ne suffit d'un rien pour retrouver les sensations d'antan. Alors demandez à un ami de revenir guerroyer avec vous, comme au bon vieux temps. Mystic Riders, développé par IREM en 1992 sur arcade, est un shooter horizontal aussi connu sous le nom de Gun Hoki au Japon. Vous dirigez l'un des deux petits apprentis sorciers selon votre position sur la borne. À première vue, le jeu ressemble beaucoup à un Kotom ou un Magical Chase, mais après quelques minutes, on se rend compte qu'il se rapproche un peu plus d'un titre réalisé par Capcom, même si les connaisseurs reconnaîtront la patte graphique rondouillarde d'IREM. Il suffit de le comparer à Legend of Hero Tonma pour s'en rendre compte. Le gameplay est très facile à prendre en main, avec seulement deux boutons, les options qui s'offrent à vous sont nombreuses. Outre les tirs basiques, il est possible de charger son attaque en maintenant le bouton shoot appuyé. Le deuxième bouton, quant à lui, vous permet de balancer le balai dans la direction opposée de la direction du joystick. Il est aussi possible de générer un bouclier éphémère en faisant bas plus haut très rapidement et même de pouvoir marcher sur le sol. Une fois les contrôles maîtrisés, il ne vous restera plus qu'à récolter un max de joyaux et de power-up pour pouvoir progresser convenablement à travers les niveaux. La réalisation est impeccable, comme c'est souvent le cas pour IREM. Mystic Riders bénéficie d'un gameplay soigné et bien recherché, et les musiques se mélangent bien avec l'esprit du jeu. Voilà donc un titre fort sympathique à la difficulté, disons, moyennement élevée. Cependant, il ravira les amateurs de shooting game et pourquoi pas les non-initiés qui pourront se faire la main dessus. Le milieu des années 70 vit l'émergence des bornes d'arcade avec le succès qu'on leur connaît. Néanmoins, le temps passant, certains jeux devenus obsolètes auprès du grand public se devaient d'être remplacés par de nouveaux titres pour attirer les joueurs, ce qui n'était pas le goût des gérants de salles d'arcade. En effet, chaque jeu disposant de son système propre et d'un cabinet dédié, c'est donc la borne complète qu'il fallait changer. Celle-ci étant très onéreuse, chaque changement de borne plombait le budget des salles. Face à la grogne des exploitants, la firme Data East proposa en 1980 un système nommé Deco Cassette. Le principe est simple, le système était équipé d'un lecteur de mini-cassettes du même format que celle utilisée dans les dictaphones ou les répondeurs. Il suffisait donc d'insérer la cassette du jeu, de brancher le dongle anti-copie accompagnant cette dernière et d'attendre le chargement complet pour que le jeu se lance. Ainsi, dès qu'un titre était passé de mode, l'exploitant de salle n'avait plus qu'à acheter un nouveau jeu au lieu de changer la borne complète. Un système économique et pratique qui ne se démocratisera que 10 ans plus tard grâce à SNK et son système MVS. Toutefois, le Deco Cassette peinera à convaincre. D'une part, la fiabilité du système laisse à désirer. les fameuses cassettes s'avéreront moins robustes que Data East ne l'espérait. Au bout de seulement quelques mois, les erreurs de lecture au chargement se multiplièrent. Un mal que connaissaient bien les possesseurs de ces PC. Les éperons des dongles de sécurité se dégradèrent également assez rapidement. D'autre part, sur la quasi-cinquantaine de titres que comptera le catalogue du Deco Cassette, peu d'entre eux attireront les joueurs. Si des jeux tels que Nebula, Lock and Chase, Burger Time ou Boulder Dash sont devenus des classiques, le fait que certains d'entre eux soient vendus dans des cabinets dédiés était totalement paradoxal à l'argument de vente premier du système. Data East abandonnera le Deco Cassette System en 1985, période à laquelle on verra apparaître un nouvel outil bien plus efficace pour simplifier la vie des exploitants de salles d'arcade, la norme JAMA.